French Connection, épisode 32.
Bonjour et bienvenue à la French Connection. Avec moi ce mois-ci, j'ai Nicolas. Salut Nick.
Salut.
Avec Nicolas à sûrement boire de la bière, Vincent. Salut Vince.
Salut.
Et Remote Europe, Damien. Salut Damien.
Salut tout le monde. Salut le jeune continent.
Yes! Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'Equifax, des vols informatiques sur la crypto-monnaie qui a lieu au Québec, des vulnérabilités dans les processeurs Intel et ARM et des attaques par des scammers. Mais avant de commencer, on fait les shameless plugs. Donc, le Québec Sec qui aura lieu la semaine prochaine, le 22 mars, on a la dernière épisode, dernière conférence de Franck avec les ransomware. Ransomware Lens Trilogy. Supposé d'être l'épisode avec des démonstrations, donc ça risque d'être intéressant, en espérant que vous ayez la chance de vous inscrire. Le 13 avril, toujours le CQSI. Le 17 avril, l'ISACA, qui aura la place de gestion de risque TI au sein de la gestion des risques organisationnels. Et Damien, si tu peux nous parler des activités en Europe.
Alors, en Europe, il y a deux dates à retenir. Alors, il y en a une qui est plutôt sympathique. C'est pas de la promo, hein. C'est un moyen de rencontrer Gandhi, qui est une grosse société française qui propose, entre autres, des noms de domaine. Et là, ils vont proposer ce qu'ils appellent le bar de Gandhi en vrai. C'est quoi? C'est l'occasion de rencontrer, eh bien, les employés de cette entreprise pour parler, eh bien, de leur savoir-faire, de... voilà, je trouve ça plutôt sympa parce qu'ils ont rien à vendre. Ils sont là pour en fait partager leur expérience professionnelle et c'est toujours intéressant de parler avec des gens qui travaillent autour des registres, des noms de domaine, etc. Et je trouvais plutôt l'idée sympa, ça se passe à Paris et ça sera le 17 avril.
Excellent. Donc, pour commencer les nouvelles, une grosse vulnérabilité qui est encore sortie. On a eu dernièrement les attaques sur les processeurs Intel, mais le voici sur les attaques AMD. Donc, Vince, tu peux nous parler de tout ça?
Oui, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une couple de semaines, en fait, il y a plusieurs semaines, on a parlé de Spectre, Meltdown, les fabricants de microprocesseurs, tous un peu mis les mains à la pâte, fait un peu d'ouvrage autour de tout ça, incluant ARM. Toutefois, ARM a sorti une nouvelle cette semaine, le 13 mars. ARM a fait des tests supplémentaires pour se rendre compte qu'ils avaient des vulnérabilités pouvant être exploitées par des simili-spectres, si on veut, ou simili-meltdown. Donc, ces processeurs-là avaient leurs propres défauts, 13 en tout, pouvant être exploités par des maliciels. Les chercheurs disent avoir découvert l'affaire de sécurité dans les puces AMD, ce qui permet aux pirates d'accéder à des données sensibles provenant de processeurs hautement protégés sur des millions d'appareils. Alors, AMD, Intel, etc., la surface d'attaque commence à être plutôt grande, si vous voulez, à mon avis. Alors, c'est particulièrement inquiétant, notamment, parce que de fait, les vulnérabilités présumées se trouvent dans ce qui est conçu pour être la partie sécurisée des processeurs. Alors, la partie sécurisée, c'est malheureusement le maillon faible, selon les chercheurs. Très chic de la part d'ARM au moins d'avoir mis au jour ça, puis de préparer justement des éventuels correctifs là, pour corriger la situation avant que les failles ne soient exploitées. C'est la société CTS Labs qui est basée en Israël, que les chercheurs de cette société-là qui ont découvert les 13 vulnérabilités. C'est notamment sur les processeurs de type Ryzen et PQPYC qui sont produits par AMD. Alors voilà, la saga des puces n'était pas terminée. On a eu un bon début d'année, mais on a une fin de premier trimestre encore avec quelques petits dégâts corrigés.
Exact, il y a eu beaucoup même de drama sur le web de plusieurs personnes qui ont ri de la vulnérabilité parce que ça a été réalisé d'une manière un peu bizarre. Ils ont fait, comme à l'habitude, un nom, un logo, mais au lieu de divulguer à AMD, ils ont décidé de divulguer à des journalistes. Donc, ça a fait un beau débat pour savoir si c'était juste une vulnérabilité pour faire descendre le stock d'AMD, pour faire de l'argent. Puis finalement, ben, plusieurs compagnies sont sorties en disant « Non, non, c'est vrai, on a analysé le code, les vulnérabilités, puis c'est vraiment vrai. Et le tout devrait être réglé, fixé, whatever. » et divulguer ensuite là, avec un petit peu plus de détails, mais j'ai hâte de voir la suite là-dessus.
Ben, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on a mis AMD justement au courant, ils ont donné moins de 24 heures justement pour assez spécialistes justement à reproduire ça pour être en mesure de faire une bonne conférence de presse puis répondre correctement. Normalement,
c'est 90 jours habituellement, là, les processus plus à la Google et tout le monde qui est en responsible de ce jeu. 24 heures, c'est rapide.
Oui, tu as tout à fait raison. Justement, j'allais dire le fameux 90 jours, mais le 90 jours, c'est une fenêtre de temps qui est extrêmement précaire quand les vulnérabilités sont divulguées.
Exact. Si on passe du côté du Québec, puis là, on tombe dans un concept qui devient un peu nouveau. Il y a beaucoup de vols de crypto-monnaies, beaucoup de sites web, des exchanges qui se font pirater, mais là, on tombe avec un vol d'équipements informatiques de crypto-monnaies. Puis ça s'est passé proche de la ville de Québec.
Ben, en fait, ça s'est passé en banlieue de Québec. Je pense que c'était à 8 ou 9 kilomètres de chez nous. C'est même surprenant que ça se soit produit ici. Je ne sais pas si c'est une première dans le monde, mais je suis pas surpris, je vais vous avouer. 5 individus dans la nuit du 12 au 13 mars à Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec, ont fait un vol d'équipement, un vol spectaculaire. Ils ont séquestré deux des employés qui étaient sur place, les ont ligotés, aspergés d'eau de Javel, et puis en quelques instants, ont rempli un cube de cet équipement-là. Ça a l'air que ça a été très rapide. On parle d'une valeur évaluée à 800 000 $ canadiens. Deux dans le camion qui se sont fait heureusement appréhender, et puis trois autres qui se sont enfuis dans une des voitures des suspects, d'une des personnes séquestrées, si je me trompe pas. Ils sont toujours à leur recherche. Alors, c'est vers 22 heures que la police a reçu un appel dans un secteur que je connais très bien. Et puis, voilà. On n'a pas eu de suivi encore à ce sujet-là dans les nouvelles, mais comme Patrick l'a mentionné, le mining de crypto-monnaies devient de plus en plus populaire. Il y a des sous à faire avec ça, mais c'est comique de voir les voleurs répondre déjà rapidement là, pour ce vol d'équipement-là pour pouvoir en profiter.
Exact, des bons vols de banque à la Western des années 18-1900 physiquement. Mais là, on tombe en crypto-monnaie, puis c'est des serveurs au lieu des banques qu'on brise.
Mais entre vous et moi, là, où est-ce qu'il aurait branché ça? Dans le sous-sol, chez un des clones? On va dire, la roulette d'hydro, elle aurait spiné quelque chose de solide. Là. Oh.
Je ne sais pas le plan derrière, c'était quoi, puis j'ai hâte d'en savoir plus, mais ça sonne vraiment
bien. Ou bien c'était une commande du crime organisé, puis eux autres avaient déjà l'emplacement au livret. Mais écoutez, on verra. On verra ce qui va se passer avec ça.
Exact. Puis il faut dire que je pense que la plupart des jeunes qui ont été arrêtés étaient dans la vingtaine. Donc, à voir si vraiment ils savaient ce qu'ils faisaient versus si c'était une commande.
Les deux, il y en a un d'une cinquantaine d'années qui semble être très connu des milieux policiers. Puis le jeune dans la vingtaine, il y a une longue liste déroulante qui lui aussi là, connu des milieux policiers. Écoutez, c'est un préjugé, là. Je m'en cacherai pas. Mais avoir l'allure des deux suspects qui ont été arrêtés, ça me semble pas être des spécialistes en informatique. Je le sais, l'habit fait pas le moine, mais en tout cas, c'est mon opinion. J'ai hâte de voir la suite.
Ça a bien l'air de ça, effectivement. Si on passe du côté avec Damien, une histoire, une vidéo qui démontre quelqu'un qui a été piégé par un scammer. Tu peux nous en dire plus?
Ah, mais c'est pire que ça, les amis. J'ai été piégé moi-même par un scammer. Le gars il m'a envoyé un courrier. Alors déjà, il me dit qu'il parle pas bien la France, mais qu'il ne faut pas lui en vouloir. Il veut m'aider. Et dans son courrier, il m'explique quoi? Qu'il a, dans ses mains, dans ses petites mains potelées, une cassette vidéo VHS. Oui, les amis. Une cassette vidéo VHS avec qui dedans? Moi, tout nu. Alors là, je vous cache pas que moi, ça me fait légèrement sourire, mais il y a énormément de gens qui se sont fait avoir dernièrement, et le gars propose que il détruira la cassette vidéo si on le paye en bitcoins. Alors bien sûr, l'arnaque est grosse comme moi, Mais ça fonctionne. J'ai des gens qui m'ont contacté en me disant « D'après vous, vous pensez vraiment qu'il va détruire cette cassette ?» Pas d'inquiétude, c'est une arnaque comme une autre où, cette fois-ci, ces scammers se disent que peut-être un jour vous vous êtes filmé. Alors, un jour, c'est il y a plus de 20 ans, hein, parce que des cassettes VHS, il y en a plus des tonnes. Mais l'arnaque est assez rigolote. Vous recevez le mail, l'escroc vous explique qu'il a tout sur vous et que si vous ne souhaitez pas qu'il la diffuse, alors vous imaginez, hein, diffuser une cassette vidéo auprès de mes amis, il va falloir en faire une paire de copies. Il va falloir payer. Voilà, c'est les nouvelles arnaques du moment. Moi, ça m'a fait marrer parce qu'il a tenté de m'arnaquer. J'ai essayé d'aller le plus loin possible parce que, vous imaginez, il a peut-être des images de moi tout nu.
Il est chanceux quand même.
Ou pas.
Si on continue, on parle de vol de banque bancaire sans contact.
Ouais, c'est ça, c'est une information qui est sortie dans un journal qui s'appelle 60 millions de consommateurs ici en France. Et en fait, ils expliquent que, vous savez, vous pouvez perdre votre carte bancaire sans contact, hein, ou alors vous la faire voler, et vous pensez aller voir votre banquier et lui dire, ben voilà, vous pouvez faire opposition à ma carte bancaire pour que personne ne puisse l'utiliser. La banque fait effectivement opposition, sauf qu'il y a une petite finesse dans tout ça. Il y a plusieurs clients de banques françaises qui se sont plaints. Parce que quelques semaines plus tard, après avoir été volé, hein, après que leur carte bancaire était dérobée, eh bien, il y a eu des achats. Il y a eu des petits achats, des petits montants, hein, 9, 15, 18 euros. Sauf qu'il s'est avéré que les banques ont expliqué qu'effectivement, il y avait eu opposition à la carte bancaire. Sauf que le NFC, le paiement sans contact, il continue encore. Petite merveille, il s'arrête à partir d'un certain montant, une fameuse dite alerte des banques qui fait que, par exemple, on ne peut pas retirer plus de 100 euros avec la carte NFC. Si on veut dépenser plus, ou en tout cas faire plusieurs achats dans la journée qui atteindra ces 100 euros, eh bien, il faudra rentrer un login et un mot de passe. Mais les voyous ont bien compris que, eh bien, le plafond, ils peuvent l'atteindre, donc ils arrêtent aux alentours de 50, 60 euros. Ils font 3, 4, 5 achats par jour, et les gens sont débités. Alors, les banques ont expliqué quoi? Eh bien, si jamais ces malveillants ne dépassent pas cette fameuse gestion du risque, eh bien, ils peuvent acheter en faisant un petit bip-bip à un distributeur dans un magasin. Et il n'y a pas possibilité de se dire « mais c'est pas moi » parce que, comme l'a expliqué dans le journal cette banque, eh bien, il n'y a strictement aucune solution pour arrêter ces agissements et qu'il fallait seulement croiser les doigts pour que ces faits s'arrêtent tout seuls. Ça, c'est super rassurant.
C'est vraiment ça la solution?
C'est de la belle magie en même temps, ouais.
Ah mais c'est terrible quand je vois le nombre aujourd'hui de personnes qui ont ces fameuses cartes, qui pensent dans une totale confiance qu'ils vont à leur banque, voilà j'ai perdu ma carte ou on me l'a volée, faites opposition, et on se rend compte que le sans contact continue toujours parce que c'est considéré comme de l'argent liquide. Et donc eh bien tant que ça fonctionne, tant qu'il n'y a pas donc ce fameux élément de gestion du risque, eh bien tant que le plafond maximal n'est pas atteint, ben voilà, ça peut acheter. C'est plutôt sympathique, hein. On nous a éduqués pendant des années qu'il fallait avoir un mot de passe et cacher ce mot de passe. Avec le sans contact, on n'a plus besoin de mot de passe et en plus les pirates peuvent continuer à s'en servir.
Comme client d'une banque, il n'y a pas moyen de dire tout simplement, mais écoutez, on va fermer mon compte, on va retirer ma carte de la circulation et puis on va m'ouvrir tout simplement un autre compte à côté avec une nouvelle carte, un nouvel, je sais pas moi, indicatif NFC.
Bah, faut que tu attends ta carte volée, là, je crois que ça va être correct, mais en même temps, comme Damien dit, ben, la carte en tant que telle, si elle n'est pas déclarée, rien, elle va continuer d'être utilisée comme du cash. Mais la différence, comme beaucoup de banques au Canada font, c'est qu'ils ont une analyse quelconque qui définit que habituellement la personne, dans les dernières années, a acheté tel genre de choses à tel endroit. Puis quand ça diverge énormément, ça lève des flags et ça arrête. Mais on dirait que ce pattern-là n'est pas dans les banques que tu parles, Damien.
Alors en France, il faut savoir que quand même, heureusement entre guillemets, le client a 13 mois pour se retourner, en tout cas pour signaler toute opération suspecte, hein, toute opération frauduleuse. Je vous raconte pas, pendant 13 mois, ça veut dire que cette personne va regarder nuit et jour son compte en banque en se disant quand est-ce qu'ils vont atteindre ce fameux plafond qui va bloquer ma carte bancaire. C'est dingue. Donc au point d'aller voir le banquier et lui dire bah maintenant vous vous débrouillez, vous changez mon compte, vous changez de manière à ce qu'il ne puisse pas collecter. Ben c'est pas possible, parce que comme le rappellent les banques, c'est comme considéré comme de l'argent liquide dans votre poche, c'est à vous de faire attention. Sympathique.
OK, c'est un peu aberrant. Là, moi j'ai l'impression qu'ils ont tout simplement il y a un nouvel élément de risque qui vient de surgir, puis ils se sont pas posé la question, puis ils ont pas de solution. Moi, c'est ce que ça me dit.
pas de solution. Ah, mais c'est clairement ça. Et puis surtout qu'on est en train de nous rendre encore plus sympathique le NFC, le paiement sans contact. Juste pour rappel, pendant les Jeux Olympiques de Corée du Sud, Visa a vendu des bonnets, des gants, des autocollants permettant le paiement sans contact. Vous achetiez par exemple les gants ou le bonnet, vous y mettiez une certaine somme d'argent et après vous payez ce que vous souhaitiez avec ça. On est en train de rendre ludique le sans contact, on est en train de rendre ludique ces moyens de paiement sans autre moyen d'identification, parce que là on n'a même pas besoin de mot de passe. Imaginez aujourd'hui un malveillant qui fait, je sais pas moi, 30, 40, 50 cartes par jour, eh bien ça lui fait une certaine somme d'argent que personne ne pourra récupérer, sauf éventuellement à réussir à piéger le pirate, parce qu'il utilisera par exemple l'ensemble des mêmes cartes dans des endroits qui seront encore eux plus malveillants. Mais voilà, c'est moi je trouve ça, c'est clairement mais comme tu le dis, hein, complètement aberrant.
Je sais pas, je peux me tromper dans ma prochaine affirmation, mais est-ce que justement la puce NFC est pas associée à une carte si on la déclare volée ou probablement clonée? La banque est capable de faire un arrêt quelconque. Là, tu es en train de me dire que tant que la carte ne soit pas expirée ou que, comme tu dis, le risque du 100 euros et moins n'est pas atteint, ça peut se faire juste ad vitam aeternam. Là. C'est ça que tu me dis?
Oui, clairement. Si la carte est volée, par exemple, lundi, le malveillant va pouvoir l'utiliser dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois, cet été, par exemple, et pourra prélever 5, 6, 10, 15, 20 euros, au moins, et ça, il faut le rappeler, jusqu'à 5 fois par jour. Alors, bien sûr, s'il atteint ce fameux plafond de gestion du risque, je prends par exemple un exemple, la Caisse d'épargne, qui est l'une des banques françaises, son plafond de sans contact est de 80 euros. Ben c'est déjà pas mal, hein, si on atteint 75. Imaginez, en plus, le malveillant peut lui-même ensuite arnaquer d'autres personnes en disant, bah voilà, regarde, je te montre qu'avec la carte, on peut continuer à acheter. Et puis, il va revendre cette carte volée, on va dire, je sais pas moi, 10 euros. Et en plus, il se fera suffisamment d'argent en continuité de cette malveillance. Oui, c'est assez étonnant. Il faut savoir qu'en France, il y a un article de loi. Hein, alors, si je m'en souviens bien, c'est le 133-18 du code monétaire et financier, hein, qui explique que le client doit être totalement et immédiatement remboursé par la banque lorsque sa carte est utilisée à son insu sans utilisation du code confidentiel. Sauf que on se rend compte que les banques sont de plus en plus réticentes parce qu'elles considèrent que c'est la faute au client. Je prends l'exemple du phishing. En France, l'hameçonnage, hein, le filoutage, en France, certaines banques mettent clairement en avant, et il y a une jurisprudence qui dit que les clients, ils sont au courant aujourd'hui de toutes les sécurités mises en place. S'ils se font avoir par un phishing, ils sont responsables. Donc, ils ne sont plus remboursables.
Ah, on va faire comme nos grands-parents faisaient. On va récupérer nos payes en argent, puis on va les cacher dans le matelas.
C'est ça. Mais comme on n'a pas beaucoup d'argent, ça va être assez compliqué. On aura des tout petits matelas.
Oui, effectivement.
Et on a Richer qui se joint à nous. Je ne sais pas si ton micro fonctionne, mais si tu peux dire salut.
Salut.
Awesome.
Hello.
Donc, pour continuer avec nos mauvaises nouvelles de banque, passons maintenant aux identifiants de connexion qui sont très facilement compromis. Damien, on parle de quoi ici?
Alors, c'est une étude qui a été faite par une société française qui s'appelle IS Décision, et ils ont voulu en fait interroger un certain nombre de leurs clients et de leur environnement professionnel, eh bien, pour savoir comment les identifiants de connexion sont facilement compromis. Et donc, ils ont extrait un certain nombre de chiffres. Moi, ce qui m'inquiète le plus, on parlait là il y a quelques secondes de phishing, d'hameçonnage, eh bien 58% des mots de passe qui sont volés le sont par phishing. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens avec leurs petits doigts pensent que le courrier qu'ils ont reçu de leur banque ou de l'administration fiscale ou de leur fournisseur d'accès Internet ou je ne sais trop qui, ils vérifient pas et ils rentrent véritablement leur mot de passe. Donc c'est 58% des mots de passe volés viennent de ce point de vue-là. Après, il y a le partage des mots de passe entre collègues. 38% des employés se partagent leur mot de passe. C'est complètement fou. C'est pas qu'il faut ne pas avoir confiance en son collègue, hein. Attention, j'ai jamais dit ça. Mais un mot de passe, c'est comme ses clés. On les protège, on les garde. Parce que si mon collègue, qui par exemple veut me remplacer, moi je pars en vacances et je lui donne mon mot de passe de mes mails ou de choses qui sont en tout cas pas à distribuer, à partager. Qu'est-ce qui me dit qu'il va pas le noter sur un petit bout de papier ou voire même sur l'écran, comme on peut le voir de plus en plus, et il ne va plus du tout maîtriser mes propres données. Après, il y a 37% donc de ces mots de passe qui sont récupérés aussi par des logiciels espions. Je pense que en tout cas, les téléphones portables sont les premiers en tête quand on voit le nombre d'applications se permettant de se servir dans nos données, donc très certainement des mots de passe. Et 35% eh bien, de ces mots de passe sont volés par ingénierie sociale, le fameux social engineering, qui est toujours aussi efficace, mais ça on peut le comprendre, hein, quand on voit encore le nombre de personnes qui donnent le nom de leurs enfants ou de leur clébard, de leur chien comme mot de passe, je pense que le social engineering a encore de sacrés jolis bons beaux jours devant lui.
Oui, c'est carrément la manière la plus simple, tout ce qui est phishing, et tant que l'adoption des 2FA et autres systèmes d'authentification ne sera pas mis en place partout, on va rester avec les mots de passe qui se font voler super facilement.
Ouais, et puis on se rend compte que, par exemple aussi, la duplication des mots de passe, la fainéantise de l'internaut qui se dit « Oh, je vais utiliser un seul mot de passe partout, je vais, après tout, pourquoi je vais être ciblé par un pirate, je ne suis qu'un simple utilisateur lambda ». Non, je le rappelle comme je le dis tout le temps, hein, on est tous dans les yeux d'un malveillant, d'un pirate, une seule chose, un petit porte-monnaie avec des petites jambes. Et sa mission à lui, c'est de les attraper, ces petites jambes, pour nous piquer notre porte-monnaie. Et bien donc, la duplication de mots de passe, et bien c'est 29% des attaques informatiques, en tout cas utilisant le mot de passe, qui ont été réussies. Pourquoi ? Parce que eh bien l'utilisateur a utilisé le même mot de passe sur 10 sites. Et après, on s'étonne que la vie privée peut être si facilement malmenée.
Oui, tout à fait. C'est une question que tout le monde a de l'argent, mais aussi tout le monde a des ressources informatiques. Donc, utiliser l'exemple qu'on a vu quelques années auparavant, des réfrigérateurs avec Internet qui envoient du spam ou que ce soit votre thermostat intelligent ou autre, les pirates sont après vos modules individuels autant que votre argent. Puis ça fait des gros impacts sur le web avec toutes les attaques de déni de service et autres.
Non, mais c'est clair. Et puis, il faut pas oublier que si on vous vole vos données, effectivement, tout le monde est omnubilé par sa carte bancaire, son compte en banque, ses dollars, ses euros. Mais n'oubliez pas que si vos données personnelles sont compromises, donc dans les mains d'un pirate informatique, c'est votre identité et votre réputation numérique qui sont définitivement perdues. Ça, il faut vraiment le rentrer dans son crâne. C'est que si on m'a volé mon login et mon mot de passe et qu'on accède à mes mails, on accepte donc peut-être aussi au moyen de réinitialiser d'autres mots de passe sur les sites que j'utilise, mais aussi les backups de mes mails, de mes textes, de mes informations, de mes photos. Pensez-y, un mot de passe, c'est comme une clé. J'ai une clé pour chaque porte.
Oui, tout à fait. Puis un des points qui est assez terrible, plutôt que je vois au Québec-Canada, mais je ne sais pas ailleurs, je n'ai pas encore vu de banque avec des multifacteurs d'authentification, à l'exception des mots de phrase, on peut dire, quel est le nom de votre mère ou de votre chien.
Mais de toute façon, pour moi, il est clair que la double authentification est indispensable. Aujourd'hui, ne pas avoir cette double authentification, comme le propos de Twitter, Facebook, LinkedIn, Google ou je ne sais trop qui, on doit le prendre ça. Parce que si jamais j'ai une entreprise qui me dit « Ayez confiance, vous avez un super mot de passe », non, il faut la double authentification. C'est penser, vous savez, on voit dans les films, quand les gens rentrent dans une banque, ils vont à leur coffre et on a le banquier qui a sa clé et le héros qui a sa propre clé, ils disent à trois, on tourne ensemble. Il faut ça aujourd'hui avec l'informatique. Parce qu'au moins, si le pirate, le malveillant, votre voisin, votre collègue ont réussi à mettre la main sur votre mot de passe, ils n'ont pas cette double authentification, donc ils rentrent pas chez vous.
Exact. Puis il y a beaucoup de malware ou de campagnes de phishing qui vont aller chercher les mots de passe, peu importe s'il est compliqué ou non, vous allez peut-être tomber pour ça. La plupart du monde tombe parce que ça a l'air trop réaliste. Donc le two-factor est nécessairement quelque chose à avoir. Mais Nick, tu disais que le gouvernement veut utiliser les credentials des banques.
Ouais, il y a eu une annonce, je crois, la semaine dernière, comme quoi, je ne m'en rappelle plus le nom marketing qu'on donnait à ça, mais on utilisait pour... ça semble pouvoir remplacer ClickSecure. Fait que tu vas t'authentifier auprès de ta banque et tu vas pouvoir accéder aux différents services offerts par le gouvernement, dont le ministère du Revenu et ainsi de suite, là. Mais à l'aide de ton authentifiant. Un peu comme c'est de la fédération d'identité, c'est pas nouveau. Mm-hmm. Mais, d'utiliser nos authentifiants de banque qui sont pas encore à l'heure actuelle, à mon sens, des authentifications de haute sécurité, là, parce que c'est pas du deux facteurs. Il y a des questions à poser.
Je vais renchérir sur ce que Nicolas a dit. Il y a eu une annonce effectivement la semaine passée, mais ça fait plus que la semaine passée que c'est en ligne. Par exemple, on est tous à l'ère des impôts ici au Québec, puis ça nous prend notre avis de cotisation. Puis pour aller chercher mon avis de cotisation, ben j'ai mon compte sur l'ORC, j'ai mon compte sur l'ORQ. Et puis la première question qu'on nous pose, c'est aimeriez-vous utiliser votre authentifiant d'une des banques participantes, une des banques partenaires pour votre authentification. Moi, je suis chez Desjardins. Et puis, si à partir d'un portable, vous allez sur le site accéder, par exemple, de Desjardins, regardez bien les logos de l'ARC puis de l'ARQ. Ils sont là. Ils vont vous expliquer là, le modèle d'authentification. Et puis, on accède à notre dossier citoyen, nos avis de cotisation, nos éléments RQAP, etc., etc. Là. C'est déjà en fonction. Moi, je l'ai activé puis ça fonctionne très bien.
Richer, il faut que tu nous dises ton acronyme favori pour du SSO.
Oui, donc dans le fond, comme c'est là, le SSO qui est le single sign-on. Moi, j'avais vu ça comme le single hack-on or hack-in.
C'est clair. Puis, surtout si on y va avec une authentification au gouvernement ou banque qui n'a pas de tout effet, puis que la plupart des endroits de ce que j'ai vu, les mots de passe maximum en longueur sont de 8 de long avec très peu de caractères spéciaux. C'est terrible, mais en même temps, comme j'ai dit, même si le mot de passe est 75 de long et super complexe, il n'y a pas de tout effet. Quelqu'un va aller dans une campagne de phishing avec le site web du gouvernement, comme Vincent vient de décrire, il va avoir les logos d'une banque, il va voler les credentials de la banque, il va avoir accès au gouvernement et à la banque. C'est comme un 2-pour-1 de hacking SSO, c'est encore pire tant qu'à moi, là.
Tant que le gros problème, ça, comme tu disais, un gros problème aussi, c'est que les mots de passe sont pas, il y a des fois où est-ce que t'as pas le droit de mettre des caractères spéciaux, des espaces ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'en bout de ligne, c'est quand même assez complexe. Mais tant que c'est pas aussi pire que, il y avait un site à un moment donné qui disait, tu choisissais un mot de passe, puis il disait non, choisissais un autre mot de passe parce qu'il a déjà été utilisé par un autre utilisateur. Donc, yes. c'est assez, tant que c'est pas ça, ouais, c'est bon, là, mais. Quand même, non, mais je suis bien d'accord avec le 2FA. Donc, quelque chose que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que la compagnie YubiKey, qu'ils fournissaient des YubiKey, pardon, qu'eux autres comme ça, ils fournissaient des clés gratuitement au Black Hat, là, quelques années. Donc, ça vaut quand même une quarantaine de dollars chacune. Là. Donc, je trouvais ça bien le fun comme, on pourrait dire, incentive, pouvoir sécuriser un petit peu plus les logins, donc c'est une bonne chose. Puis en plus, sont très pratiques. Tu sais, ça se traîne sur un porte-clés. C'est pas quelque chose qui est encombrant. Là. C'est pas comme les premières fois où est-ce qu'on avait des clés RSA là, avec un code que ça prenait une pile dedans pour que ça fonctionne, puis tout ça. Là. Tu sais, on parle même pas ouais, de exact. Ça. Là.
Puis t'as même le nouveau modèle qui est nano, qui fit à l'intérieur de ton USB, puis qui dépasse d'environ 3-4 mm, fait qu'il accroche pas même quand tu le mets dans ton sac. Non, il n'y a pas de raison de ne pas avoir ça. Au minimum, un 2FA logiciel là, avec les Google Authenticator, Microsoft, Duo, whatever.
Mais, de toute façon, presque tout le monde a un téléphone. Et donc, comme tu dis, avec le Google Authenticator, déjà, exact. C'est quelque chose, c'est une bonne chose. Tu sais, à la limite, je dirais des SMS, au moins, tu sais, minimum. C'est quand même pas l'idéal, mais quand même, tu sais, c'est quand même quelque chose, là.
Ouais. Puis c'est en train de disparaître, les 2FA avec SMS, parce que ça se pirate assez facilement. C'est sur le point de disparaître. Mais de voir que les banques et les gouvernements ont même pas encore compris que ça existait, quand la plupart des entreprises sont là depuis des années. Et encore une fois en retard, puis c'est pas juste Québec, là, c'est Canada et la plupart des États-Unis, les banques sont pas là du tout. Là. Ouais. Mais très dommage. Dernière nouvelle du côté de Damien, Anyrun qui rend public son outil d'analyse de malware en
parallèle. Ouais, tout à fait. Pour une fois, on va parler des Russes d'une manière positive, les amis. C'est Alexei Lapshin, c'est un cyberchercheur russe qui est connu dans le milieu quand même, hein, et qui vient de mettre à disposition son système d'AnyOne. C'est un VM, hein, c'est une virtual machine, c'est une sandbox, clé en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez tester en fait n'importe quel fichier que vous pouvez recevoir, je vous cache pas que je me fais un petit plaisir moi à tester les ransomware qui peuvent passer entre mes mains. Ben voilà, c'est du clé en main, donc on n'est pas obligé d'être un professionnel. On n'est surtout pas obligé d'installer tout le matériel à la maison. Je pense surtout aux particuliers qui viennent de recevoir un fichier particulier, un PDF, un Word, un Excel, peu importe, et qui ont envie de voir quel effet ça aura sur leur machine si jamais ils avaient le malheur de cliquer dessus. Et donc, du coup, eh bien, l'outil AnyOne permet donc de voir si le fichier est légitime ou tout simplement un code piégé. Franchement, je trouve ça plutôt bien foutu. Bon, il en existe d'autres, hein, mais celui-ci, je le trouve tellement simple, parfaitement simple même derrière, pour des gens qui n'y connaissent rien. Et donc, du coup, eh bien, c'est une nouvelle couche qui va permettre de sécuriser, ben voilà, à cette secrétaire, à ce patron qui n'est pas un qui ne sont pas, pardon, des professionnels de la sécurité et qui se disent, mais ce fichier zip que je viens de recevoir, est-ce que je dois avoir confiance en lui ou pas? Eh bien, du coup, cette sandbox va permettre de s'assurer qu'il n'y a strictement aucun danger. Pour le moment, c'est gratuit. En tout cas, la première version qui est proposée ne tourne que sous Windows 7. Hein. J'entends que l'environnement, c'est Windows 7. C'est sur du 32 bits. C'est bon, voilà, c'est le début. Il va y avoir plusieurs autres versions payantes qui, là, seront beaucoup plus poussées pour les chercheurs. Voilà, je trouvais que l'idée était intéressante. Et comme je le disais au début, c'est troll, mais presque pas. Pour une fois, on parle des Russes en bien. Et donc, bah, profitons-en.
Pour une bonne fois. Non, c'est clair, c'est un bon outil à utiliser. Et pour la dernière nouvelle, j'ai gardé la cerise sur le gâteau. Et pour une fois de plus, Equifax dans les nouvelles. Et bravo à tous. Et on a un dirigeant qui a été finalement inculpé pour un délit d'initié, Vincent.
Comme c'est étonnant!
Oui, écoutez, après 7 mois de divulgation, puis un an d'exploitation de la faille, bon, enfin, un dirigeant qui est inculpé pour délit d'initié. Monsieur a voulu utiliser ses stock options. Je pense que ça s'est fait 2 ou 3 jours avant l'annonce publique là de la brèche. Et monsieur s'est fait 950 000 $ US au lieu d'une perte de 117 000 $ US. Alors John Ying, directeur informatique, bon, d'une des activités américaines d'Equifax qui était basée à Atlanta, le siège social. Comme je viens de dire, il a exercé ses stock options, puis il a liquidé l'ensemble de ses titres avant l'annonce au grand public. Alors, il a collecté tout près d'1 million au lieu d'enregistrer sa perte. C'est le premier dirigeant à être inculpé et poursuivi dans cette affaire. Alors, c'est le procureur fédéral de Georgie qui a annoncé des poursuites pénales à son encontre. Faut pas oublier que lors de ma première annonce justement sur ce fameux sujet, 3 des dirigeants avaient justement utilisé leurs stock options avant la divulgation. Est-ce qu'on va avoir d'autres inculpations? L'avenir nous le dira. Alors voilà pour la nouvelle Equifax qui est encore dans de beaux draps.
Ce qui est fou quand même, c'est de se dire qu'en interne, tous ces gens étaient au courant, quel que soit le niveau de hiérarchie, et qui se sont dit « Oh, il va y avoir une petite annonce, ça va pas faire de vagues ». Ils se sont dit que personne n'allait rien voir, que la justice n'allait pas les poursuivre. Il est gentil, hein, le mec qui vient de gagner 952 000 $, il va en perdre combien maintenant? Mais en amende? Ils sont tellement mignons, ces gens.
Ben, au moins, il va avoir l'argent pour... excusez, il va avoir l'argent pour faire... payer ses avocats, au moins.
Savez-vous ce qu'a mis la puce aux enquêteurs, entre autres? Monsieur Ying a été invité à un entretien, justement, pour parler de brèche, etc. Et puis, son petit hamster s'est mis à tourner en disant, OK, qui s'est fait hacker comme ça? Ça se peut-tu que ça soit nous autres? Monsieur a refusé l'entretien. Et ils ont décelé que monsieur a commencé à faire des recherches sur d'autres entités publiques, justement, qui ont divulgué des failles pour voir la perte possible des actions. Et puis, cette recherche-là a été récupérée, justement, par les agents pendant l'enquête. Ça leur a mis la puce à l'oreille du pourquoi il a vendu ses stock options. En fait, il a utilisé ses stock options. C'est que probablement qu'il était au courant. Il a décelé que c'était de Equifax, donc sa compagnie dont on parlait. Alors ici, c'est rapidement renseigné et il a utilisé ses stock options pour faire de l'argent.
Donc, alors les gars, ils travaillent en banque, ils connaissent parfaitement l'intelligence artificielle, ils ont des outils qui calculent à la milliseconde ce qu'il va falloir acheter et vendre, mais pour eux, ils oublient qu'éventuellement, on va pouvoir retrouver des traces. Je les adore, hein. Franchement, je les adore.
Oui, puis écoute, belle intervention. Hein. On parle ici d'un directeur informatique. OK, un directeur informatique, un gestionnaire. Un gestionnaire, ça délègue, ça accepte le travail des autres. Il n'est pas obligé d'être expert en informatique, mais savez-vous quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il est expert en informatique. Je pense qu'il s'est mis le pied dans la bouche puis s'est tiré sur le gros orteil, là. Ça, c'est mon avis.
Je connaissais pas cette phrase, mais je vais me la faire en t-shirt. Hein. Je promets, je la ramène celle-là.
Alors, la saga Equifax, c'est que, chers auditeurs, j'ai pas l'impression que c'est terminé. Je pense qu'on va s'en faire un feuilleton avec une belle introduction, une musique de fond. Écoutez, on travaille là-dessus.
Ça s'en vient, puis j'ai bien hâte de t'entendre chanter ou pas.
Oui, c'est vrai, j'ai trouvé la chanson.
Ça va être quelque chose. Donc, ça fait le tour des nouvelles. Beaucoup de choses encore une fois. Très hâte à la prochaine nouvelle d'Equifax. C'est vraiment super. Je crois qu'il va falloir reparler effectivement de notre tout effet des banques et du gouvernement. Ça non plus, c'est pas nouveau, puis c'est pas terminé. Puis je crois que ça va faire jaser. Bien hâte de voir la suite des choses. Mais merci à tout le monde. Merci, messieurs. Et on se reparle dans 2 semaines.
Ah, salut à tous et pour ceux qui nous écoutent mais qui ne sont pas au même moment, bonne fête, Patrick.
Merci.
Bon, ben salut tout le monde. Bonne fin de semaine.
Salut.
Bonne semaine.
Salut. Bye, Yvon. Ciao, ciao.